Si vous avez entendu le dernier portrait de famille de Wasila Djabi, si vous descendez sur cette page web ou vous repérez l'émission animée par Marianne Paquette sur le câble, vous avez peut-être entendu qu'encore aujourd'hui, c'est difficile pour les personnes en situation de handicap de trouver un appartement accessible ou même universellement accessible. Ce qu'on cherche souvent, ce sont des logements sociaux, des logements abordables, mais les nouveaux projets immobiliers sont-ils tenus d'offrir des logements universellement accessibles? Et encore mieux, est-ce qu'on peut être de notre temps? Est-ce qu'ils sont capables d'offrir des logements accessibles universellement qui sont aussi inspirés des projets qu'on a de développement durable? Donc, on prend aujourd'hui comme exemple le projet Angus qui ajoutera près de 400 logements sociaux à l'arrondissement Rosemont-de-la-Petite-Patrie qui en a franchement besoin. Et ce projet va réussir peut-être, espérons-le, ce pari d'offrir des logements abordables, durables, certifiés LEED, Alouette, mais surtout accessibles. Donc, avec nous, j'ai bien hâte de vous les présenter, deux femmes qui, respectivement, représentent le développement durable ou l'accessibilité universelle. D'abord avec nous, Coralie Denis, directrice générale du Conseil régional en environnement de Montréal et aussi membre du CA de la Société de développement Angus, qui est responsable de ce projet dont on vient de parler. Bonjour, Coralie.
Bonjour.
Bon, alors, pour que les gens le sachent, vous avez une petite intonation de voix.
Tout à fait. J'espère que ma voix ne sera pas si désagréable que ça, même si on aime mieux sa voix naturelle.
Mais je trouve que vous avez beaucoup de douceur, mais ça passe parfaitement bien.
Merci.
Donc, n'hésitez pas à l'emprunter. Moi, par contre, je m'entends en écho en ce moment. C'est fou. Ces nouveaux locaux nous donnent, vous voyez, des nouvelles voix. Vous n'êtes pas seul. Isabelle Cardinal, architecte et directrice des services de consultation chez Société Logique, est aussi avec nous. Bonjour Isabelle Cardinal.
Bonjour Benoît.
Alors, vous l'avez compris, vous avez chacune, vos lettres de prédilection. Coralie, Denis, DD pour développement durable. Isabelle Cardinal, AU pour accessibilité universelle.
Exactement.
Bon, OK. Tout le monde a ses lettres de noblesse, tout va bien. Isabelle Cardinal, je m'adresse à vous d'emblée. Vous êtes une des architectes spécialistes de la Société Logique, qui est située d'ailleurs dans le quartier Angus. Quelle a été votre participation dans le projet proposé par la Société de développement Angus?
Ben, en fait, on n'a pas de participation vraiment active. Nous, chez Société Logique, on s'intéresse à tout nouveau projet d'aménagement, que ce soit de l'aménagement urbain, de projet immobilier, etc. C'est sûr que comme nos bureaux sont placés à proximité, c'est un quartier qu'on vit au quotidien.
Oui, vous le voyez donc tous les jours.
C'est ça, on a été interpellés particulièrement là, par ce projet-là. On a déjà fait des représentations, on a déjà rencontré des gens en amont du projet pour leur parler d'accessibilité universelle, mais sinon notre participation n'est pas très active. Okay. C'est vraiment à titre d'organisme de promotion qu'on le fait.
Donc vous avez été aviseur, disons, dans le débat public sur ce projet-là, mais pas intimement impliqué. Là.
C'est ça, exactement. On a présenté un mémoire. Là,
vous avez présenté un mémoire?
Oui, on a présenté un mémoire.
C'est important de le dire. Est-ce qu'il y a des normes obligatoires actuellement en matière d'accessibilité universelle et surtout en habitation?
Benoît me parle d'accessibilité universelle.
Oui.
Les normes d'accessibilité universelle obligatoires, ça n'existe pas.
Ah, mais il faut que vous le disiez.
Donc, les normes d'accessibilité qui existent actuellement, ce sont des normes de conception sans obstacle. Mm-hmm. Ce sont des normes qu'on retrouve dans le Code de construction du Québec.
Ouais.
Et on fait une grande distinction entre l'accessibilité universelle et la conception sans obstacle. Quand on parle d'accessibilité universelle, le mot « universel » le dit, donc on vise l'ensemble de la population. Mmh. Et il y a une distinction aussi dans les solutions qu'on met de l'avant. On veut vraiment que ce soit des solutions qui soient identiques pour tous, inclusives et qui tiennent compte de l'ensemble des besoins de la population.
Venez nous faire doucement la définition de ce qu'est l'accessibilité universelle.
Ce qu'elle devrait être.
Ce qu'elle devrait être, voilà. Mais le code du bâtiment, c'est pas du tout le cas.
Dans le code de construction du Québec, la section d'accessibilité porte le nom de conception sans obstacle. Mm-hmm. Et on explique clairement dans le code de construction que les exigences visent à donner une réponse à certains besoins de personnes qui se déplacent en fauteuil roulant manuel.
Écoutez, juste un instant, il y a près de moi... D'habitude, je sors la boîte de Kleenex quand je suis travailleuse sociale, mais là, pour l'instant, on en a une.
Non, c'est pour un petit bonbon dans ma gorge.
OK, ça. Non, mais il faut que tout le monde s'entende. En fait, c'est ça, l'approche inclusive. Hein? Bon, j'ai même accroché le micro. Donc, tout va bien. L'approche inclusive voudrait que tout le monde soit inclus. Alors, je veux pas que vous soyez au banc des exclus.
C'est
là.
Très aimable.
Donc, pour revenir à ce que vous disiez, Isabelle Cardinal, il faut pas confondre les choses. Donc, il n'y a pas d'obligation de concevoir de manière universelle, peu importe le projet, au fond.
Absolument. Aucune exigence.
Même s'il existe une politique en accessibilité universelle à Montréal.
Oui, exactement. Mais une politique, ça demeure une politique.
Ah oui.
C'est à un niveau peut-être, je veux dire, idéologique. Que concrètement, ça se retransmette dans un projet de construction, on n'en est pas là.
Bon, OK. Ben écoutez, on n'est pas tant de bonne humeur, mais le concept de développement durable et accessibilité universelle, est-ce que ça peut se conjuguer? Je dis ça parce que dans le projet Angus, par exemple, on souhaite faire des bâtiments certifiés LEED et on aimerait qu'il y ait le respect d'un ou des deux critères en accessibilité. Expliquez-nous ça un peu mieux.
Bien, en fait, nous prétendons que l'accessibilité universelle est une composante du développement durable. C'est sûr que la perception naturelle du développement durable s'est axée davantage vers l'environnement, les ressources, l'énergie. Par contre, un lieu, un quartier durable est un quartier qui va permettre à ses résidents, ses citoyens d'y vivre longtemps. Mm-hmm. Donc, on pense que l'accessibilité universelle, c'est une composante sociale du développement durable et que ce n'est pas incompatible nécessairement.
Donc, dans le fond, ce qu'on se pose comme question, c'est au cœur de l'idée de développement durable qui doit prévoir l'équité hein, des citoyens, des citoyennes, il devrait avoir normalement l'accessibilité universelle. C'est ce que vous proposez plus ou moins?
Bien, en fait, nous, c'est ce qu'on pense qui serait logique.
Okay.
Et il y a quand même déjà dans les normes, entre autres sur la norme LEED sur l'aménagement des quartiers, il y a quand même un énoncé, il y a un critère qui touche l'accessibilité universelle.
Le critère 11?
Exactement. Donc, on a un énoncé où on dit qu'il y a un pointage, en fait, on souhaite augmenter le nombre ou la quantité de lieux que les gens pourront fréquenter. Donc, l'énoncé est très bien.
Est-ce que c'est de la visitabilité plus que de l'accessibilité universelle?
Ça, c'est l'énoncé de base. Mais quand on regarde la façon en habitation, on propose des critères. Et quand on les regarde vraiment, on a des choix entre trois critères. Et on regarde ce qu'on nous demande d'inclure en habitation, bien là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en respectant un de ces trois critères-là, le résultat obtenu en termes d'habitation, ce ne sera ni un logement visitable, ni un logement adaptable, ni un logement adapté, ni un logement universel.
Donc, il ne reste pas grand-chose, là.
Non.
Bon, alors, un petit défi. Je me retournerai à ce moment-ci vers Coralie Denis. J'espère que
ça
va.
Pour l'instant, ça va.
Donc, rappelons que vous êtes directrice générale du Conseil régional en environnement de Montréal, mais aussi membre du CA de la Société de développement Angus, qui pilote ce projet de développement, ce grand projet. Hein. On le dit, là, on entend ça dans le jargon municipal. C'est un grand projet, c'est structurant. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'habitation, des zones commerciales, probablement un espace de vie commune pour que les gens puissent se sentir bien dans le quartier, tout ça. Donc, ce projet-là, le CA sur lequel vous siégez le porte, je sais que vous avez à cœur le développement durable. Hein?
Tout à fait, oui. C'est sûr.
Quand vous entendez Isabelle Cardinal dire qu'au cœur du concept de développement durable, il y a, au fond, l'accessibilité universelle, est-ce que vous achetez ça?
Bien sûr, c'est sûr. Le développement durable... Quand on l'évoque dans les... Vous l'avez très bien évoqué, la question de milieu de vie, de qualité de milieu de vie, ça en fait partie, évidemment. Mm-hmm. C'est autant la question de l'abordabilité des secteurs pour faire en sorte qu'il y ait une mixité sociale, mm-hmm. qu'il y ait aussi les services, donc une diversité de services à proximité, et aussi,
et
bien sûr, que tout le monde
puisse
en profiter, bien entendu. Donc, c'est évident que ça en fait totalement partie. Et dans ce projet-là, pour le connaître un peu quand même, c'est certain que, bon, c'est sûr que d'un point de vue environnemental, ça, selon moi, ça va être assez au top de ce qu'on peut être capable de faire dans un secteur comme celui-ci. Il y a vraiment des choses très, très intéressantes qui vont être mises en place. et la volonté d'aller beaucoup plus loin que ce que les normes ou ce qui est dicté actuellement en termes d'accessibilité universelle, c'est clair que ça va être fait. Mm-hmm. Alors, je ah, pense oui, qu'il y a déjà cette volonté-là qui est inscrite au sein de... alors, la Société de développement Ingus, c'est celle qui va développer. Ouais. Moi, je suis partie du conseil d'administration de la Société ouais. du patrimoine Ingus,
okay.
Qui notamment détient les terrains. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que c'est au cœur, ça, et ça sera inclus pour faire en sorte que ces éléments-là soient améliorés. Et c'est la belle occasion, c'est un terrain vierge. Ouais. Alors, quand on est dans j'imagine, je ne suis pas une experte dans cet élément-là, mais il est clair que quand on est dans le logement déjà construit, c'est plus compliqué mm-hmm. d'adapter. Mais quand on est dans des logements qui se construisent, qui sont neufs, il est clair qu'on a l'opportunité, l'occasion là, et rêver de faire beaucoup mieux.
Mais c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on attend même. On
Tout
se dit effectivement, Montréal est une ville qui a l'âge qu'elle a. Hein? C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à rendre accessible tout, mais quand on est face à des nouvelles constructions, on s'attend à ce que l'accessibilité universelle soit déployée. En somme, ce que vous nous dites, est-ce que vous croyez que ce projet-là d'habitation, mais aussi, comme on le disait, de développement général, ce projet mixte, voilà, va aller plus loin que le critère 11, la certification légale.
C'est ce que j'ai compris, tout à fait.
OK, bien.
Et en même temps, juste dire, c'est sûr que on est dans du nouveau, il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut continuer aussi. Ça, c'est un projet qui est porté par une équipe qui est déjà très, très sensible à ça. Mmh. Mais ce que j'entendais, c'est qu'au fond, de façon généralisée, c'est pas quelque chose qui est rendu comme obligatoire non, dans voilà. des principes. Alors, de la même façon que nous, on pousse pour que le Code du bâtiment et tous les outils réglementaires qui existent pour dicter les façons de construire. Nous, on parle aussi comment on isole de façon pour le bruit. Le bruit à l'intérieur des bâtiments est un problème souvent dans les anciens bâtiments, mais aussi la qualité des matériaux, le côté évidemment environnemental de ces matériaux-là et la qualité des édifices d'un point de vue énergétique et autres. Alors, c'est clair qu'il y aurait probablement à travailler pour s'assurer aussi que sur l'accessibilité universelle, ces critères-là soient intégrés et puis deviennent comme une obligation, une façon de faire qui se répercute de façon généralisée sur l'ensemble
donc,
des nouveaux bâtiments.
Comment on y arrive? Parce que c'est sûr qu'il y a une politique au niveau montréalais qui défend l'accessibilité universelle, qui dit même que Montréal doit être leader en la matière, mais on comprend bien que ça n'a pas beaucoup de force, là, pas beaucoup de dents lorsqu'on déploie comme votre projet, lorsqu'on déploie des grands projets. Est-ce que la Société de développement Ingus serait prête à s'engager à davantage respecter l'accessibilité universelle? Est-ce que vous croyez que ça pourrait faire partie de ces mandats?
Pour ce projet-là, il est clair que la volonté d'améliorer la situation va être présente.
OK, bien.
Maintenant, la Société de développement Ingus est sur un territoire précis d'intervention. Mm-hmm. Ou la Société de patrimoine, c'est clair qu'elle ne peut pas dicter aux autres constructeurs.
Ah non, bien sûr.
Par contre, moi,
on n'est pas rendu là. Non, mais vous pouvez être des élateurs, vous pouvez être des exemples pour les autres, parce que tout le monde a les yeux tournés vers les grands projets. Des fois, à chaque grand projet, j'ai l'impression là, que ben, les maires, des fois, là, ils en font... Une belle fierté. Là. Il y a comme une occasion de montrer ce qu'on peut faire. Là. Puis vous voyez à quel point on est innovant, à quel point on est environnemental. Mais là, il y aurait l'occasion d'être vraiment accessible universellement.
Mais je pense que c'est sûr que la volonté, déjà avec le projet qui est sur la table, qui est très innovant pour à bien des égards, c'est clair qu'il va y avoir... je l'espère, une promotion encore plus grande une fois que ça sera construit pour mm-hmm. dire, regardez, c'est faisable. Si on est capable de le faire là dans un quartier, on est capable de le faire à bien d'autres endroits.
Okay.
Et donc, que ça serve d'exemple. Mais ce que je mentionnais, c'est que pour le rendre systématique, mm-hmm. il va falloir en effet ancrer des principes dans les outils qui sont réglementaires et qui dictent au fond les façons de construire.
Mm-hmm. Alors, donc, vous voulez dire les normes, par exemple.
Les normes ou le code du bâtiment.
En fait, ça, c'est une bonne question. Notre amie Isabelle Cardinal a bien envie de réagir à ce moment-ci.
Ben, en fait, j'ai deux réactions. Oui, effectivement, pour se déployer plus largement à travers la province, je pense que l'outil principal, c'est le code de construction. Ça fait des années que plusieurs groupes font du travail pour faire évoluer le code. Effectivement, on sait qu'il y aura des mesures prévues pour favoriser l'accessibilité du logement.
Mais moi, je peux te le rappeler, parce qu'il y a eu la défense de 7 propositions qui ont été refusé en bloc par le ministre responsable du Code de la construction et qui concernait l'habitation.
Mais ça a continué de cheminer et d'être retravaillé parce que il y a quand même un intérêt, puis bon, le besoin est là. Okay. Les recommandations ont dû être retravaillées et ce qu'on sait, c'est que normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait voir certaines exigences pour la visitabilité des logements, mais encore une fois, un code de construction édique des normes minimales.
Oui, voilà.
Donc, il y a quand même, il y aura toujours un écart.
En sécurité dans son logement, là. C'est pas ça que ça commande. Ça commande qu'on puisse être visité.
Exactement. C'est une accessibilité minimale à l'intérieur du logement. Il y aura aussi probablement une possibilité d'avoir des logements un peu adaptables. Mais encore une fois, l'écart est là avec l'accessibilité universelle.
Bon, on n'a malheureusement pas le temps de débroussailler tous les concepts que vous avez énoncés aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que il y a une forme heureuse qu'on souhaiterait voir, que celle de l'accessibilité universelle, qui n'est pas toujours possible. Avant de vous quitter, Coralie, Denis, il y a des mesures précises qui sont prévues pour être sûr que ce projet de 400 logements puis de d'autres développements respecte de bonnes normes en termes d'accessibilité?
Je pense que oui. Finalement, c'est pas, je ne fais pas partie de l'équipe qui travaille dessus. Donc, il y a une grosse équipe qui regarde le projet dans ses détails. Alors, oui, il y a des choses qui vont être faites. Est-ce qu'elles sont écrites actuellement? Ça, je ne le sais pas. Je sais qu'ils veulent le faire de façon la mieux possible. Je suis convaincue que même Société Logique, vous serez amené à aider à cet édifice-là, ben au-delà du mémoire que vous avez fait, mais aussi d'être interpellé par la société de Ingus pour s'assurer que vous contribuez à l'idéation et favoriser que ça se fasse le mieux possible sur ce terrain-là. Parce que c'est un magnifique projet dans un quartier et ça va... il faut absolument qu'en effet, je pense que l'idée, c'est qu'il soit le meilleur sous ces différents angles.
C'est ça. Et donc, que tous et toutes puissent en profiter. Écoutez, on a malheureusement plus de temps. Je suis content que vous soyez à table aujourd'hui quand le développement durable rencontre l'inclusion. Ça nous fait des meilleurs quartiers, pas juste durables, dont on peut être fier. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci Coralie Denis, directrice générale du Conseil régional en environnement de Montréal et aussi membre du CA de la Société de développement Ingus. Merci.
Merci.
Merci encore Isabelle Cardinal, qui est architecte et directrice des services de consultation chez Société Logique.
Merci.